mit zwei Süßen. Oder Fête de la Sainte Famille. Je me rappelais pas quand disait l'évangile de la bar mitzvah de Jésus. Pour la fête de la Sainte Famille. Je n'ai pas souvenir de ça. C'est parce que, en fait, Jésus est descendu du temple, Jésus est descendu de Jérusalem à Nazareth. C'est à cause de ça, sa naissance. Le temple, c'est Noël est descendu du temple de Dieu, le Saint des Saints, immaculé, d'une paternité sans voile par rapport à la plénitude de grâce, plénitude d'amour de Marie-Joseph, plénitude de grâce qui est à la frontière de la plénitude de gloire, quoi, finalement. On dit bien hein, que dans la période avant Noël, avant l'enfantement, on dit bien qu'on est dans le monde de Dieu, plus que dans le monde des hommes, dans le monde angélique, plus que dans le monde de la nature humaine, dans le monde de la liberté, quoi. On se prépare. Surabonde de plus en plus. Et puis voilà, à un moment donné, il y a cet enfantement où on se conjoint à l'humilité du monde, à l'humilité de la terre. Et c'est ça au fond Noël, un peu, c'est ça, Noël, c'est le passage du temps. À Nazareth, Jésus, Dieu, descend. Jésus se met sous l'ombre de la famille humaine, de la Sainte Famille. À l'ombre de la transformation, de la comment est-ce qu'ils disent dans l'évangile d'aujourd'hui, de la croissance, de la sagesse, de la grâce, de la soumission, de l'obombration, de la vie cachée. Finalement, la vie embryonnaire est beaucoup moins une vie cachée. Que la vie de Nazareth, qui est une vie très cachée. C'est parce qu'on passe des sacrements, par exemple, qui n'est pas une vie cachée, parce que le sacrement, c'est la fête, hein, le jour de on est baptisé, c'est la fête du mariage, c'est la fête de la Pâque, c'est la fête de Noël. Le sacrement, toujours un côté festif, un côté. Mais ils ont pour but de nous enfanter à quelque chose de très simple, à nous glisser dans la vie intérieure cachée du fruit des sacrements, de la croissance de Jésus, du Verbe de Dieu, l'enfantement doit devenir l'enfantement entier vivant de Jésus. Dans Nazareth, Noël, il est enfanté, puis dans leur raison, quoi. Secret, dans la soumission, dans le silence intérieur de la Sainte Famille, il y a une raison. Il y a une transformation. Il y a une croissance, une sagesse, une grâce, une famille. Au départ, il y a Jésus seul qui est l'enfant créé de Dieu, l'enfantement éternel de Dieu. Et à la fin, l'enfantement incréé, éternel, incarné, en plénitude et entier de Dieu, c'est une famille. C'est la famille entière du monde, c'est la famille entière. C'est la nature humaine tout entière. Et entre les deux, bah, il y a la transformation. Et cette transformation, elle se fait dans la Sainte Famille, elle se fait par la Sainte Famille, elle se fait dans la sainteté de la famille. C'est ça, l'Église catholique, quelque part, l'Église catholique nous montre bien qu'on ne devient pas un saint comme ça, tout seul. La sainteté n'a rien à voir avec, avec la culture d'une sainteté individuelle. Voilà, regardez, il y a Saint François d'Assise, et Sainte Marie l'Arabe, et ce grand saint-là qui est là, celui-là. Alors, on donne l'impression quelquefois que la sainteté est une sainteté. Ça paraît individuel, alors que justement, non. Saint-Étienne, par exemple, c'est la sainteté de tous les martyrs. C'est le sang de tous les saints de la Jérusalem glorieuse qui témoigne de l'amour éternel en brûlant, qui brûle le sang de Jésus et de tous les martyrs de tous, les témoins glorieux du Père. C'est ça qui navigue, qui coule dans son sang, dans sa vision, dans sa vie. Donc, peu importe, au fond. Et tous les saints, c'est pareil, Saint Jean, vous faites aujourd'hui. Pas la culture individuelle d'une grâce personnelle. On est attaché à une œuvre chrétienne, on doit faire quelque chose sur la terre, etc. Non. On se laisse guider, on se laisse grandir dans leur raison, on se laisse intégrer, embombrer, assumer, aspirer, disparaître dans la transformation de quelque chose de beaucoup plus grand que la Sainte Famille. On est en paix. Tandis que quand on est dans une sainteté qui est personnelle, individuelle, un peu comme l'Antichrist, et ben voilà, on est fébrile. On n'est pas des. Il y a une impureté. Il n'y a qu'un seul diamant. L'indivisibilité de la famille, de l'enfantement de Dieu dans la chair, c'est indivisible. Il est né, et nous, cet enfantement, il n'y en a qu'un, et un seul diamant. Incroyable l'unité qu'il y a dans le diamant unique de Jésus, Marie, Joseph, Jean. La Sainte Famille, quoi. C'est incroyable. Ce diamant non brisé, lumineux, limpide, ouvert, grandissant. C'est coulant partout. Invasion d'humilité. Sache que j'aime le Père, il faut qu'on sache que nous sommes l'enfantement du Père. Il y a un enfantement, la paternité du enfant, et l'enfantement c'est nous. Et on n'est pas enfanté tout seul. Oh là là, j'ai reçu une grâce. Oh, j'ai reçu une grâce. Oh là là, attention. On entend ça, faites attention quand vous entendez ça. Oh, j'ai reçu une grâce, j'ai reçu une grâce. Non, la grâce. Une grâce, c'est tout le monde secrètement hein, qui en profite. Il y a un seul diamant. On ne savait pas que je dois être chez mon Père. C'est chez mon Père que je dois être. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez quand l'évangile d'aujourd'hui, quand il a 12 ans, Jésus. assis comme ça pendant 3 jours. Il a 12 ans. Il a 12 ans, quand on est dans la lumière de gloire de la vision béatifique, hein, l'intelligence humaine, elle a le temps de se développer quand même. Elle a eu le temps de... elle a eu le temps de s'exprimer. Que la lumière de gloire porte tout ça, engendre la Torah et engendre toutes les significations, toutes les manifestations les plus contemplatives, les plus sublimes. Mais que Jésus lui pose des questions. C'est marqué dans les 613 préceptes. Tu n'enseignes pas la Torah avant d'avoir 50 ans. Là, tu me poses des questions. C'est ta manière d'enseigner la Torah. Alors, pendant 12 ans, pendant sa vie embryonnaire, dans son génome, dans sa mémoria dei, dans sa lumière de gloire, Jésus posait des questions. L'humanité, l'intelligence de Jésus posait des questions. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il posait des questions justes. Et il les posait dans le sein des saints du temple de la paternité impériale de Dieu. Et il était assis, c'était le roi, c'était la vérité royale de Dieu. Ton humanité, ton intelligence humaine d'enfant, c'était la vérité royale de Dieu. Il était assis dans le sein des saints. Dans le sein des saints. C'est là, il est. Marie le sait bien. Et puis, il a 12 ans, donc. Et c'est marqué dans les préceptes de la Torah. Il y a un kippa qui est assis. Et il y a quelque chose qui doit se manifester. C'est dans les préceptes. Et donc ça doit être un peu découvert, pas beaucoup, mais un peu, le temps d'une mort, une résurrection pendant 3 jours. Non, reste assis, il faut ça un peu manifester. La gloire de Dieu est rentrée dans le temple. Et alors il pose des questions. D'Israël, de très grandes assises. Et on sait que parmi les questions qu'il posait lorsque les parents sont arrivés, lorsque Marie arrive, il posait des questions sur le Saint des Saints. Sur sa dévastation. Sa prophète Daniel. Il va glorifier le temple pour que la dévastation ne s'empare pas du temple. Que la royauté du Messie était pour ça. Que s'il s'est incarné, c'est pour que le Père soit glorifié. Et que ça soit pas dévasté. Il va lui poser la question. Sur le prophète Daniel, sur l'abomination de la désolation. Sur le signe de la venue du Messie dans le temple. Sur sur sa signification, sur sa finalité divine, cachée, secrète, profonde. Sur l'heure du Messie, parce qu'après tout, le compute de Jérémie le prophète, le compute de Daniel, le compute de Néhémie d'Esdras, c'est facile de poser des questions. Ils savaient compter, hein. Alors Marie dit, nous étions en train de souffrir, ton père et moi. Alors ça, je ne suis pas certain que ce soit la bonne traduction. Nous étions dans l'angoisse. Parce qu'il y a une communion quand même. Et il y a une angoisse. Dans l'enfantement, il y a une angoisse. Et cette angoisse, elle est par rapport à la paternité agréée de Dieu. Elle est surtout vécue par l'époux de l'Immaculée Conception, par le Père. Donné au Verbe éternel, Dieu dans la chair. Forcément partagé, quoi. Il y a une angoisse d'enfant. Quand un enfant est angoissé, il pose la question. Il pose la question, tu sais quoi, mes sauveurs. Il pose la question. Parce qu'on est arrivé à l'heure. On pose des questions pour mettre en évidence que l'heure est arrivée, l'année est arrivée, le jour. Et le mois sont arrivés. Alors, on peut interroger les nations d'Israël quand même. Et puisque l'heure est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il dit le prophète Daniel? Alors, comme ils ne savent pas répondre, à chaque fois, ils répondent et ils disent, mais pourquoi tu dis ça? Alors Jésus, ben, il repose une nouvelle question pour les amener au point central. Quoi. Et la réponse, elle est donnée par le fait qu'il quitte le temple, qu'il descend à Nazareth dans l'aube embrassion de la Sainte Famille. Faire la volonté éternelle du Père pour accomplir sa volonté éternelle. Et donc pour se faire un corps véritable, pour se faire un corps de la nature humaine tout entière, pour faire de la nature humaine tout entière son propre corps dans l'oblation. Dans le sein des saints, la paternité agréée de Dieu, dans le monde, dans le temps et dans l'éternité. Et pour ça, il descend dans l'horizon, il descend à Nazareth. C'est la réponse que les nations d'Israël lui ont pas donné. Alors Marie est miséricordieuse, elle dit voilà, c'est une angoisse. Hein. Il y a une angoisse entre le papa. La paternité de Dieu, l'enfant, et la mère, la Jérusalem véritable. C'est un peu comme aux noces de Cana. Elle pose elle aussi une question pour que les nations d'Israël puissent comprendre, entendre qu'il va y avoir une réponse. Là, ce ne sera pas le changement de l'eau en vin, ce sera le changement du cœur de l'humanité dans le cœur de Jésus vivant et entier. Et ça va durer. Ça va durer 24 ans quand même. dans la paix, dans l'unanimité, la persévérance, jusqu'à ce qu'on atteigne précisément le, voilà, engendrer l'apocalypse de la nature entière du monde. Oui, le Saint-Esprit va travailler, quoi. Il va y avoir les deux mains de Dieu dans l'unité de la Sainte Famille, l'envoi du Saint-Esprit, l'envoi du Verbe de Dieu dans l'unité profonde du corps mystique vivant entier. Qui grandit jusqu'à l'accomplissement de la plénitude, de la Jérusalem glorieuse des temps. Du point de vue de la charité, du point de vue de la grâce, du point de vue de la sagesse, l'engendrement de la sagesse, l'enfantement du corps. Et sous le souffle des 7 dents du Saint-Esprit, c'est pour ça que 7 ans après, la conception de Jean. Et à nouveau, 12-13 ans après, 12e et 13 ans après, la mort de Joseph. Il va descendre dans le fond du calice. Où se déverse l'amour agréé éternel de Dieu délicieusement. Avant de se conjoindre l'amour éternellement agréé du Verbe de Dieu. Pour conjoindre les deux dans le fond du calice. Mais c'est vrai, il faudrait écrire, je sais pas, quelque chose comme ça, ce qui se passe dans la Sainte Famille quand même. Il y a eu des étapes, quoi, c'est pas la même chose, hein, à chaque fois. C'est sacré, la famille. On a envie de divorcer. Non, de ne divorcer pas. Ça se passe très mal, très bien, rester ensemble. Il faut tout sauf le divorce, tout, absolument tout, sauf le divorce. D'ailleurs, dans l'évangile, c'est la seule chose où Jésus est inflexible. Il ne faut pas qu'il divorce. C'est le seul point sur lequel Jésus est inflexible. L'homme quittera son père, sa mère, sa femme, et donne son cœur. On ne touche pas à ça. Ah, ça se passe mal. T'as qu'à quitter le temple, et tu rentres dans la transformation. Il faut que tu changes tout. En étant dans l'embrassement, l'assomption, le ministère, la joie de créer une église nouvelle. Ah oui, Non. Il dit aussi que Père James Manjacal, il criait comme ça dans ce bus levé. Le Seigneur a un message pour vous. Et tous ceux qui veulent divorcer, ne divorcez pas. Jésus vous guérit. Il vous enlève. Il vous met dans un nouveau mariage. Ne divorcez pas, ne divorcez jamais. Jésus est là. Même si ça va très mal, Jésus guérit, Jésus vient, Jésus est là, Jésus dans votre unité, Jésus fait jaillir de votre vie commune, de votre vie, de votre alliance. Ouvre les portes du sacrement pour faire jaillir sur la monde un mariage nouveau. Il vous guérit du mariage de ce monde. Il vous libère du mariage de ce monde. Il brise tous les liens du mariage de ce monde. Il fait rentrer le lien du mariage de Jésus. Vous ne divorcez pas. C'est l'heure où le mariage ne doit pas divorcer. Nous sommes arrivés. arriver à l'heure ou le mariage devient indissoluble divinement. Quoi qu'il arrive, dire pareil pour un petit peu pour la raison, hein, c'est le mariage. La primauté de la famille, c'est la primauté de la raison, c'est pareil. Ce qui fait le ciment de la vie commune, de l'Église, c'est la raison. Porteuse de l'ouverture de tous les temps. Et le lieu où la nature humaine tout entière, même ceux qui sont immensément loin, refleurissent dans un unique enfantement. Le Père enfante. L'enfantement a créé, c'est le Verbe de Dieu. Et l'enfantement, c'est nous. Il y a un seul enfant. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a un moment où ce n'est pas le point de vue humain qui est le moteur. Le point de vue humain n'est qu'instrument. C'est la transverbération qui est motrice. La transglorification qui est motrice. Le fruit des sacrements qui est moteur. C'est l'indivisible. Dans l'agneau de Dieu, la Jérusalem spirituelle accomplie. Avec tous les saluts, le ciel tout entier. Mais ça, Jésus il fait la remarque, hein, il dit, attends, comment se fait-il? Ça ne fait pas que je dois être c'est mon père. Il faut que le monde sache que j'aime le père. Oh, les docteurs de la loi, je veux dire, ils se doutaient bien, hein, quand, comment, juste quelques secondes avant qu'ils disent ça, ils disaient bien que ce petit était sans doute le Messie, hein. C'était pas idiot, hein. Il était très intérieur, très perspicace, très messianiquement informé, hein. Il y avait quelque chose de transfigurant dans leur discernement intérieur. Il y avait une grâce, c'est pour ça que c'est Jésus. Il était dans le temple pour leur parler à eux. Et c'est beau de savoir que l'axe, c'est ça, c'est le sein des saints d'un paternité jaillissant du Père dans notre monde. Et Jésus n'est pas né dans une paternité humaine. Mais par contre, quand il descend dans la nativité, il rentre dans la paternité humaine de Joseph. Que la paternité incrée de Dieu, c'est la paternité de tous les hommes sans exception, en lui. C'est pour ça qu'il est écrit, sainte famille, il grandissait en grâce, en sagesse. Dans la face à face. Ils ont bien vu que c'était le Messie. Par contre, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui a pu leur advenir un petit peu intérieurement. parce qu'ils l'ont vu donner cette réponse. La réponse à toutes les questions qui s'étaient posées là. Cette réponse, c'est qu'il descend à Nazareth. Descendre du temple, c'est-à-dire de voyez, notre tête, quoi, pour rentrer dans le cœur. Descendre de notre tête pour rentrer dans l'âme brûlante et la liberté du temps de la Jérusalem, immortelle de la Jérusalem, accomplie. C'est pour ça là, il a besoin de rentrer dans la paternité créée de la Sainte Famille en Saint-Joseph, à la table de la plénitude de grâce d'un enfantement qui va se développer dans une charité qui doit se déployer jusqu'à une affinité avec la Jérusalem glorieuse terminale de l'Église. Là, il a besoin, Dieu a besoin, dans le Christ, il a besoin de Saint-Joseph pour qu'il se déploie un petit peu comme nous. Il a besoin de nous, il a besoin du grand roi pour qu'il y ait ce déploiement qui se fasse dans l'ouverture des temps. Pour atteindre, s'écouler, attirer, immaculiser, assumer, absorber même tout ce qu'il y a de parfaitement accessible dans chacun des êtres de vie de la nature et chacun des. De ce qui doit constituer l'enfantement universel, l'enfantement entier, vivant Jésus, vivant et entier. Il faut beaucoup d'amour, et beaucoup de transformations surnaturelles, beaucoup d'enfouissement, beaucoup d'union hypostatique déchirée, pour qu'il y ait cette attraction irrésistible à la transverbération. Transverbération universelle. Là, vous enlevez la famille, et bien ça ne se fait plus. Il y a un arrêt. Non, l'Église d'un dernier temps, c'est pas des apôtres séparés les uns des autres. Ils ont un sens de la famille qui est inouï. Un sens transverbère. Enfin, c'est le verbe de Dieu, c'est le monde agréé des missions invisibles de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu dans l'unité indivisible de la Sainte Famille qu'ils ont dans un sacrement. C'est ça qui fait que c'est possible. C'est là que le mariage prend toute sa signification. Et donc quand tout va mal en dehors de ce qui n'est pas ça, tant mieux. C'est le moment de rester. Parce que ça veut dire qu'on va avoir la grâce sublime, suprême, ultime, céleste. Jamais reçue, peut-être jamais réalisée, jamais manifestée. Pour porter précisément la Sainte Famille humaine dans la Sainte Famille glorieuse. Dans un flux reflux qui ne s'arrête plus. C'est ça la question que Jésus posait. pense à mon frère. Ben, mon frère ne divorce pas. Il s'est marié, mon frère, le père Bertrand le Pesant, il a fait un serment au mariage de mon frère en 1977. Bon, il s'est marié avec une fille, mais certainement c'était une femme, mais c'est pareil, il y avait quelque chose qui était bizarre quoi, dans ce mariage, parce que je crois qu'il s'est marié en se disant. C'est ce qu'il disait d'ailleurs, mais il s'est marié avec elle. Pas parce que humainement il y avait une. Il y avait une attraction, mais non, pas du tout. Mais c'était pour la sauver. C'était pour sauver l'humanité, pour sauver le sacerdoce qui s'était marié. Et de fait, humainement, c'est humainement impossible. C'est dès le départ, déjà avant le mariage, c'est humainement impossible. Il l'a fait à cause de ça, parce que le mariage. Alors le père Bertrand, il dit, le jour du mariage, il fait le serment. Il dit, mais normalement, il faut qu'humainement, il y ait quelque chose quand même. Tu vois ça devant les familles, le serment, humainement, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Ah bah oui, intention de fidélité, intention de fécondité. Ah ouais, il y avait les conditions, il y avait toutes les conditions étaient requises, mais il n'y avait pas la liberté, bon, c'est librement pour sauver le monde. Alors on présentait vraiment quelque chose qui était perdu, quoi, qu'il fallait sauver, quoi. Donc on la sauverait. Elle aussi, quelque part, il y avait quelque chose à sa manière à elle, qui était en affinité avec ça, mais d'une manière qui était tellement humainement invraisemblable que ça venait en contradiction avec l'intention de ça, qui était du côté du mari. Et donc le père Bertrand, le Pesant, ils étaient tous les deux catholiques. Ils priaient tous les deux. Ils croyaient au sacrement. Alors il dit, bon, moi je veux bien recevoir votre... consentement, parce que je sais, je crois, que le sacrement sera valide, malgré tout. Bien que humainement il n'y a rien, qu'il puisse faire un mariage humainement. Et moi seul, la seule chose qui puisse éclairer ma conscience pour accéder, pour recevoir vos consentements, c'est. Que peut-être que votre mission sur la terre, c'est de prouver que le sacrement de mariage à lui seul fait tenir un mariage, alors qu'il n'y a rien qui puisse le faire tenir humainement. Et ils sont mariés comme ça. Et ils sont restés fidèles à ça, parce que c'est pas facile. Beaucoup de gens catholiques, hein, très branchés, priants, etc. Ils auraient divorcé dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé pendant les 5 premières années, 10 premières années, 20 années, 30 années, 40 ans. Ils auraient eu un centime de ça, ils seraient divorcés. Non, eux, non. Ça reste. Et ben, je suis très fier d'être gémellisé à ça. Ça fait partie de mes. Ça, c'est un sacerdoce. Combien de prêtres ils ont sauvé en sens ça? Incroyable. Sans le savoir, je pense. Si, en le sachant, je crois. Parce que c'était l'intention. Et grâce à Dieu, il n'y a pas eu de dégâts dans les enfants. Ça, c'est incompréhensible. C'est ça la grosse surprise. Le miracle aussi. Il y a un côté miraculeux, quoi. Il n'y a pas eu de dégâts chez les enfants. On n'est pas sur la terre pour être heureux. non, mais on n'est pas heureux. Ah ben t'es pas heureux. T'es pas heureux, c'est bon, on n'est pas heureux pour être heureux sur la terre. On n'a pas été créé par Dieu pour être heureux sur la terre. On a été créé par Dieu pour être bien heureux sur la terre et dans le ciel. Et en paix, parce que bien heureux et pacificateur, parce que on est en paix, parce qu'on est dans la volonté éternelle de Dieu Jésus. Il va dans la Sainte Famille, parce que c'est là qu'il va totalement broyer et moller. Jusque dans son unité apostatique déchirée, mais telle d'enfance, dès l'enfance. Donc c'est pas la béatitude du bonheur terrestre. On est des sources de pacification pour le monde. Et mon frère, c'est un des seuls êtres humains dans le monde qui réussit à comprendre que le Saint des Saints est dévasté. Comment ça se fait que tout le monde soit aveuglé là-dessus? Et pas lui. Et c'est pas parce que c'est mon jumeau. Non. C'est une grâce qui lui a été donnée parce qu'il vit ça. Alors du coup, on peut entrevoir, hein, se lever le voile de l'Assomption. On est assumé. Dans l'ouverture des temps, quelque part, et en faisant un instrument en même temps, il y a bien des choses qui nous échappent, c'est évident. Divorce. On ne doit pas divorcer. On ne doit pas faire ce divorce. L'humanité ne doit pas divorcer. Vous savez, l'antichrist, c'est pas le fait que l'abomination de la désolation, c'est pas l'antichrist. L'antichrist, c'est une personne. Personne qui s'appuie sur l'abomination de la désolation pour investir la nature humaine et se l'approprier. C'est pas le pontife suprême de la lumière de l'humanité tout entière qui sera pape et qui va s'approprier la papauté de l'Église universelle catholique. C'est ça l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, elle est liée à la Sainte Famille. Elle est liée au Saint-Dessein, à la paternité, qui s'exprime dans l'au-delà de sa sponsorité, la chair et le sang. Et dans un sacrement, sacrement de la transverbération et de la transactuation, il ne faut quand même pas l'oublier. Le mariage. C'est tellement fort. Ceux qui ont compris ça et qui vont vivre leur mariage à partir de là, c'est impossible qu'ils puissent divorcer. C'est strictement impossible. Mais ceux qui vivent leur mariage de la manière sociale, politique, manif pour tous, manipulation pour tous, etc., ça. Ils vont vers le désastre, ils vont sans un mur, c'est évident. C'est le voilà, mais c'est pour que les portes s'ouvrent sur ce qu'est la transverbération et la transactuation sponsale. Que les portes s'ouvrent chacun. Et dans l'ouverture des temps, il faut qu'il y ait cette ouverture pour que ça s'écoule dans les unes dispensables brisées, broyées, détruites, anéanties, désespérantes, désespérées, suicidées. Qu'il y a dans le monde, il faut, voilà, une respiration de chaque mémoria dei, mais aussi de chaque signification spontanée du corps primordial de chacun. Voilà la transverbération mutuelle dans la transactuation spontanée. Il y a une mission indispensable et nécessaire à l'ouverture des temps. Voilà cette femme. Donc il faut que l'Église, en célébrant la messe, pose ses germes d'ouverture dans la lumière et un enfantement de cette grâce du monde nouveau, du cinquième saut de l'Apocalypse dans le mariage, dans l'intériorisation, c'est-à-dire le réel incarné à partir du Saint des Saints déployé. C'est pourtant si facile de choisir Dieu. Et quand on est marié et que ça va mal, ben, ça prouve qu'on n'a pas choisi Dieu. Donc il faut se mettre en choisir Dieu. Choisir Dieu dans notre mariage. On refait le choix de Dieu dans notre mariage. On refait le choix de Dieu. On refait le choix de la pater... On refait le choix de mariage spirituel. C'est qu'on va trouver là, dans une boîte qui s'ouvre, dans qui nous est donnée, et les parfums de Dieu se répandre jusqu'à la Jérusalem du mariage spirituel accompli. Et on se remet dans cette effluve, dans ces émanations parfumées. C'est pour ça que je voudrais qu'on célèbre la messe ce matin, pour cette intention-là. Que la spontanéité déploie ses secrets intimes, comme ça. Une perception, quoi. Une libération de la doctrine céleste, de la doctrine messianique, de la doctrine. Verbérante de l'Église catholique, du Saint-Père et de la Sainte Famille, dans tout, dans toutes les affections portées plus ou moins par la différenciation sexuelle. Et qu'il n'y ait pas d'autre revendication dans l'union de l'homme et de la femme que celle de la croix. Hypostatique désirée, pour qu'il y ait transverbération dans l'au-delà de notre mariage, dans la nature humaine tout entière. Parce que ça, c'est une efficacité liée au mariage. Le sacrement est une grâce, et c'est un signe efficace. Donc il faut qu'il soit pratiqué, qu'il s'exerce, qu'il s'actue dans notre monde, sinon le temps n'avancera pas. La croissance ne se fera pas. La sagesse non plus. Et la réserve spirituelle n'existera pas. jamais un saint dans le monde d'aujourd'hui n'avancera assez seul. Il avancera si s'engloutit à l'intérieur d'une famille de celui que Dieu met proche de lui. Et s'y sommeille, c'est dans cet endroit-là qu'il fait grandir l'art de l'Église d'aujourd'hui. Nouvel Israël de Dieu, mais il y a des multitudes.